Le texte est de Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. L'annonce de l'Alliance nouvelle. Et c'est dans la version Tob. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur », car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. Je vous propose, pour entrer dans le sujet, une introduction que je veux méditative. Dans nos cœurs, dans nos consciences, l'alliance du Seigneur, inscrite, gravée, présente en nous. Ses directives, sa volonté, la conscience de son amour, de notre appartenance en nous. Inscrit en profondeur dans notre chair, au plus profond de notre être. Une alliance nouvelle, une alliance de femmes et d'hommes, des sœurs, des frères, des compagnes, des compagnons, où tous connaissent le message du Seigneur, sa présence, sa gloire manifestée aux hommes. Au temps des origines, le Seigneur avait pris nos pères par la main, comme des enfants, il les a lui-même sortis d'Égypte, sans leur demander leur reste, sans peut-être qu'ils le veuillent vraiment. Et ils ont rompu l'alliance dès qu'ils ont pu, comme des enfants qui ne comprennent pas. Le pourquoi, l'intention du Père, sa volonté de salut. Ils jouaient avec la loi, incapables de distinguer le vrai du faux, la loi des asservissements, les dieux des idoles. Oracle du Seigneur, j'inscrirai ma loi dans vos cœurs. Elle sera gravée, précisée, comprise. Ma présence vous habitera. Je serai là, conscience, profondeur en vos cœurs. Mon amour fera partie de votre vie, de votre être, de vous-même. Je serai le Seigneur pour vous. Et vous, peuple, pour moi. Je ne serai plus père et régent, plus celui qui vous garde et vous surveille. Je ne serai pas une simple image, une icône, une idée, une loi. Et vous ne serez plus des enfants sans parole, sans conscience de ce qui se passe, qui suivent par crainte ou par routine. Mais je serai là dans vos cœurs. Vous me connaîtrez. Et moi, vous, je vois votre misère, je connais vos fautes et pleure sur vos méfaits. Mais mon pardon, par ma grâce, vous inonde. Comme le déluge a effacé le péché du temps de Noé, mon pardon vous ouvre à des horizons vierges. Un arc-en-ciel nouveau se lève au-dessus de vous, oracle du Seigneur. Je vous invite à la prière. Au Seigneur, devant ton oracle, je dépose ma prière. Donne-moi le temps de me laisser habiter par ta présence. Dans mes silences, dans mes méditations, mes lectures, viens t'installer en moi. Dans la solitude, dans la rencontre, viens au milieu de moi. Fais de moi une créature debout, réceptive à ton esprit. Mets-moi en mouvement à ta suite, un mouvement dans la joie et le service. Aide-moi à ne pas tomber dans la contrainte ou l'obligation face à toi. Ma foi ne se nourrit pas d'une suite de devoirs à réaliser pour accomplir ton alliance. Ma foi est un regard nouveau sur ta création. L'alliance gravée en nos cœurs dit la responsabilité de ce qui est donné dans la vie, dans les promesses de la rencontre, dans les visages croisés. L'alliance est une toile tissée de liens entre tout ce qui nous entoure, une toile tissée du fil de la reconnaissance de ta présence. Fais de moi le canevas de ta volonté dans mon quotidien. Redis-moi que ton alliance n'est pas une béquille, redis-moi que ton alliance n'est pas une compilation de recettes magiques, afin que dans la souffrance et la fragilité, je sente que tu m'accompagnes réellement. Ainsi que malgré les doutes, je perçoive ta présence. Ô Seigneur, je te prie ainsi, après Jérémie. Amen. Parler de l'alliance après la lecture de ce texte de Jérémie et en parler directement de façon discursive, sans méditation, m'aurait apparu déjà trahir cette nouvelle alliance. Vous l'avez vu dans cette alliance nouvelle, vous l'avez entendu, il ne s'agit plus d'expliquer, de connaître, d'apprendre, mais bien de vivre cette alliance dans nos traits. Alors, comme nous allons le voir, cette alliance se vit dans tout notre être, dans notre corps et par l'esprit. Alors, voici un peu l'annonce du plan. Est-ce que, Eliane, tu pourrais, s'il te plaît. Voilà, alors vous verrez que moi je suis parti avec un titre vers une nouvelle compréhension de l'alliance, mais ça va rejoindre ce que Eliane a dit, l'alliance et Jésus, puisque bien sûr on va parler de Jésus et de cette alliance. Mais je voulais asseoir le début de mon propos justement dans ce texte de Jérémie 31 et voir de quoi parler cette nouvelle alliance. Ensuite, nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 15 à 20. C'est le texte très connu de l'institution de la scène Eucharistie. Et ensuite, nous verrons quelle réception a pu faire, par exemple, Paul de cette idée de l'alliance. Et nous verrons que dans ce texte de 2 Corinthiens 3, Paul polémiquera sur cette nouvelle alliance. Voilà. Alors nous partons directement dans ce texte de Jérémie 31. Vous verrez que quand on parle de l'alliance et de la nouvelle alliance, on est toujours dans une certaine ambivalence. Parce qu'on est toujours dans l'accompli et dans le pas tout à fait accompli et le pas encore accompli. Vous verrez l'importance du temps, ce qu'on appelle en théologie chrétienne le kairos, l'importance du temps de Dieu. C'est accompli, mais c'est pas accompli. De même que la nature de l'alliance, puisque déjà dans Jérémie, on annonce une nouvelle alliance, donc l'alliance que fera Jésus dans son sang sera nouvelle, mais dans la continuité avec ce qui s'est vécu jusqu'ici. Donc on sera tout le temps dans cette ambivalence qui est difficile à traduire. C'est un peu un état d'esprit. Alors, ce texte de Jérémie 31-34. Alors, quand je vous parlais du temps, vous voyez directement le verset 31 commence par une mention de temps. Des jours viennent. Voilà. Donc, ça va venir, mais des jours viennent. Il n'y a pas de précision de temps. Oracle du Seigneur. où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance, alors là la traduction littérale de l'hébreu serait « non comme l'alliance » que j'ai conclue avec leur père quand je leur ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Ce qui est important ici, c'est la mention pour les faire sortir d'Égypte. Pour les faire sortir d'Égypte. Tout de suite, on parle de Pâques, et vous verrez comme c'est important après pour Jésus quand on traite de cette nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance est associée directement à la sortie d'Égypte. Voici dans l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur, je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes. Mes directives, c'est le mot Torah qui est là. Au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Alors là aussi, deux ou trois choses à noter. L'inscription de cette alliance au fond d'eux-mêmes, c'est parfois traduit dans leur cœur. Alors là aussi, il y a une certaine ambiguïté parce que pour le juif, le cœur c'est le siège de la volonté, alors que nous c'est plutôt le siège des émotions et des sentiments. Et en fait, au fond, c'est les entrailles, c'est l'émotionnel. Vous savez, quand on a les boyaux qui sortent, donc c'est qu'on a une forte émotion. Ça, on le retrouve, par exemple, souvent dans le Nouveau Testament, quand vous avez le bon samaritain qui voit l'homme blessé sur le bord de la route. En fait, il y a le verbe grec splangizomai, c'est-à-dire qu'il est ému jusqu'aux entrailles. Et c'est dans ces entrailles que le Seigneur va graver la nouvelle alliance. Aussi, cette alliance qui est... alors vous savez que le mot alliance, c'est le mot hébreu berit, qui deviendra en grec diakophé et qui devient en latin testamentum, en fait. Et dans le passage de la traduction du grec au latin, il y a la notion... dans un testament, il y a la notion de contrat, en fait. Et là, on la voit déjà, puisqu'on précise bien les statuts des uns et des autres. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Voilà. Alors, c'est un contrat entre deux parties, un Dieu et son peuple. Ils ne s'inscriront plus entre compagnons, entre frères, répétant, apprenez à connaître le Seigneur, ils me connaisseront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. Là aussi, une des dimensions de l'alliance est bien sûr liée au pardon de la faute. Et dans ce pardon, on voit un passé qui est assumé. Et donc là, on voit bien qu'on va de l'avant. Alors, on voit aussi que malgré le terme contrat que j'ai employé, on est dans une alliance de relation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport de maître à élève, de quelqu'un qui instruit un autre, un rapport qui serait assez sec, mais un rapport existentiel, en fait. Et ça, avec Jésus, ça va être développé à son paroxysme, puisque l'alliance avec Jésus, c'est tout d'abord une rencontre, c'est pas des choses à savoir ni à apprendre, c'est le fait de rencontrer. Donc, c'est une alliance de relations que Jérémie propose. Alors, Jérémie l'appelle Nouvelle Alliance. On peut se demander si c'est pas une appellation usurpée, une publicité mensongère, hein, comme on dirait maintenant, puisque tout le long du texte, moi je pense qu'il y a plusieurs alliances. Il y a une première alliance avec Adam, on a une avec... Noé, on n'en est pas à la deuxième alliance, en fait, à une nouvelle alliance. Donc là aussi, dans ce que je disais au début, depuis le début des relations de Dieu avec son peuple, le peuple juif, eh ben, il y a des alliances qui sont nouvelles et elle est perpétuellement renouvelée, même si elle est gravée dans la pierre à un moment, ben non, c'est une alliance qui vit et qui se renouvelle. Et la nouveauté de l'alliance, voilà, peut être mise en question. Voilà, c'est quelques mots que je voulais dire sur ce texte de Jérémie. Ensuite, nous passons à Luc 22. Alors vous allez voir, je vais le lire, le rapport est assez évident avec le texte de Jérémie. Comme Eliane nous l'a rappelé tout à l'heure, Jésus connaissait parfaitement l'Écriture et c'est tout à fait fortuitement qu'il utilise ce texte de Jérémie pour instituer la scène, donc la scène chez les protestants et l'Eucharistie chez les catholiques. Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais je vous lis le verset 14 qui est juste avant. Et quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Puis Jésus leur dit, de tout mon désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant ma passion. Je vous dis, en effet, que je ne la mangerai pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, il dit après avoir rendu grâce, prenez cela et mangez-le entre vous. Je vous dis, en effet, que je ne boirai pas dès maintenant du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Puis, ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et la coupe, de la même manière, après avoir soupé en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Alors directement, ce qui me frappe beaucoup dans ce texte, c'est que dans ce texte, Jésus désire. Alors remarquons ce que cela a d'exceptionnel. Les évangiles sont avares de notifications des envies, des désirs de Jésus. En tant que personne, en fait, comme il se donne tout aux autres, on a très très peu de mentions sur lui et c'est un peu frustrant. Surtout qu'on vit dans une époque où on est justement que dans ça, hein, où quand on a un président de la République nouvellement élu, on se demande s'il va se marier avec sa femme plutôt que ce qu'il va faire, ou si la femme de l'ancien va le quitter. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Mais au temps de la rédaction des évangiles, c'était pas du tout ça. Alors, il faut vraiment enlever tout ce qu'on a dans la tête. Et quand il y a une mention « Jésus désire », il faut qu'on allume toutes nos sirènes théologiques dans la tête pour dire vraiment « là, l'heure est grave ». Il emploie une formule tout à fait c'est mythique, parce que si on traduisait littéralement, il dit par désir, j'ai désiré. Il y a une redondance même de son désir. Par désir, j'ai désiré. C'est que vraiment l'événement est important. Et là aussi, dans la continuité de ce que j'ai dit sur Jérémie 31, ce discours sur la scène est un discours qui est motivé par un désir. Donc ça ne va pas être une leçon magistrale, mais la Sainte Cène, l'Eucharistie, ce n'est pas un enseignement, c'est un désir. C'est quelque chose qui doit faire appel à nos émotions. La scène est le désir qui fait appel à notre être. J'inscrirai dans leur être, disait l'oracle du Seigneur reporté par Jérémie. Jésus institue donc la scène dans un désir profond. Il y a, je l'ai déjà dit, dans le texte de Luc et dans les agissements de Jésus, des parallèles avec le texte de Jérémie. Et c'est tout à fait naturellement que Jésus inscrit ce dernier repas dans l'accomplissement de la nouvelle alliance. Les textes entre les deux ne sont pas le fruit du hasard. Alors la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le texte de Jérémie, il est fait mention de la sortie d'Égypte et Jésus va célébrer, instituer la scène le jour de Pâques. Hein, vous vous rappelez ces préparatifs aussi assez mystérieux, où il envoie ses deux disciples qui trouvent la maison, qui trouvent la pièce haute, et puis où tout le monde monte pour partager cette Pessah, pour partager la Pâque juive. Alors, la sortie d'Égypte marque la première Pâque qui était célébrée dans l'Exode, et c'est au cours de cette Pâque que Jésus prend la parole et qu'il reprend l'idée de cette nouvelle alliance annoncée dans Jérémie. Et là, il se place profondément dans cet héritage de Jérémie, mais il se projette, et là aussi c'est une question de temps, il prend dans son héritage juif, mais il se projette déjà dans l'avenir, et un avenir qu'on dit eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps, puisqu'il parle déjà du royaume de Dieu. Et comme nous l'entendons, il est question du temps de Dieu, le kairos. Alors ça, le kairos, c'est une notion qui est assez difficile à comprendre, parce que nous, on vit, et c'est tout naturel, dans un temps qui est linéaire, dans une succession de secondes, de minutes, d'heures. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que des fois, il y a des minutes, des heures qui semblent un peu plus longues que d'autres. J'espère que celles que vous êtes en train de vivre ne sont pas parmi ces minutes trop longues, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'en théologie chrétienne, et c'est, je pense, une des pointes de la théologie chrétienne, c'est de considérer le temps comme un ressort, en fait. Et vous avez un ressort, quand vous le fermez, vous êtes en fait à Pâques, et le jour de la résurrection, qui est le point de départ pour nous du christianisme, et ce ressort, vous dépendez comme ça. Et par là, il y a cette notion du royaume de Dieu qui est jamais atteinte, et par là, vous avez l'histoire du peuple juif. Et ce qui est intéressant avec le ressort, c'est que vous pouvez le replier, et que l'histoire du peuple juif qui est à ma gauche peut rejoindre la notion du royaume de Dieu qui est à ma droite. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, la Bible ne doit pas être considérée, à mon sens, comme un récit biographique, et même les évangiles, c'est pas du tout une biographie de Jésus, puisque, en fait, notre histoire, elle part par la fin, c'est-à-dire par la mort et la résurrection du Christ. Et là, on est vraiment dans ce kairos. Reprenons ce texte qui est si dense, et je pense que c'est un texte, on ne pourra jamais l'épuiser. Je pense que chaque fois qu'on s'y replonge, en fait, il y a des choses nouvelles qui nous sautent à l'esprit. Donc, vous ne l'avez pas sur votre feuille, mais je vous rappelle qu'au verset 14, et quand ce fut l'heure. Donc là, on a aussi cette dimension temporelle. Ça y est, il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là, quand Jésus prend la parole. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, de tout mon désir, j'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant ma passion. Alors il faut imaginer, hein, c'est toujours sympa de s'imaginer, même si on ne saura jamais comment c'était, mais Jésus qui est installé dans une pièce haute d'une maison avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette genèse assez mystérieuse de l'institution de la scène, et il exprime déjà son désir dans toujours cette tension présent, passé, présent, futur se mêle. Le passé, c'est la commémoration de la fuite d'Égypte. Le présent, c'est son désir de l'instant présent. Et le futur, qui sera le futur proche, c'est l'anticipation de sa passion à ce moment-là. Je vous dis, en effet, je ne la mangerai pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus annonce une autre dimension à celle du temps. Et nous sommes toujours dans cette dimension, puisqu'il annonce déjà son absence physique du monde. Il ne mangera plus la Pâque avec ses disciples. Soulignons aussi, et ça je trouve que c'est assez important, que la célébration de Pessah, la Pâque juive, n'est pas du tout abolie par Jésus, ou supprimée, mais elle est mise un peu en stand-by, en fait, on a l'impression. C'est-à-dire en attente de son accomplissement. Et notre sacrement de la scène de l'Eucharistie comprend donc la célébration de la Pâque et est une attente de son accomplissement. La tradition a voulu que dans nos communautés chrétiennes, on abandonne la fête de Pessah mais c'est une question de tradition, parce que dans l'institution de la scène, il n'y a pas d'abolition de Pessah, en fait. C'est assez étonnant. Alors, on peut dire que l'Eucharistie, la scène le comprend, mais ça serait bien des fois de le rappeler aussi au moment où on institue la scène. Et ayant pris une coupe, il dit, après avoir rendu grâce, « Prenez cela et partagez-le entre vous. Je vous dis, en effet, que je ne boirai pas, dès maintenant, du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Alors juste, petite mention, j'ai l'impression qu'en fait, Jésus, ici, il ne prend pas la scène avec ses disciples, puisqu'il dit, « Dès maintenant, je ne boirai plus. » Donc, voilà, c'est pas une certitude, mais c'est la scène, c'est déjà quelque chose qui donne, et lui, il est déjà en retrait. Il est là, il est absent. Et si vous remarquez, on est toujours dans cette même dimension. Il est là, mais il est absent. Jésus effectue ce qu'on appelle un geste prophétique, accompagné d'une parole. Et c'est ça qu'on appelle une institution, quand on fait un geste et une parole. Il institue la scène eucharistique. Ce qu'il fait maintenant, les disciples, sous-entendu dès maintenant jusqu'à l'irruption du royaume de Dieu, auront à le faire, prendre une coupe et la partager. La partager pour se sentir solidaire entre eux, pour pallier l'absence de Jésus et pour attendre l'avenir. Et cette attente, c'est pas une attente morbide, longue, c'est une attente joyeuse, puisque vous avez vu, on utilise du vin, et le vin est le symbole de la fête. Le repas voulu par Jésus n'est pas un mémorial de sa mort, mais une anticipation joyeuse de la fin. Et vous l'avez lu aussi, ayant pris une coupe, et là aussi, référence à Pessah, puisque je crois qu'il y a quatre coupes, c'est ça, à Pessah, donc il prend une coupe qu'il a devant lui, et il prend une coupe qui était là pour célébrer Pessah. Puis, je continue, ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Nous pensons au nouveau sacrement, donc à la nouveauté, et Jésus anticipe déjà sa passion, puisqu'il demande de faire mémoire alors qu'il est toujours là. Encore une fois, Jésus bouleverse le temps linéaire. Il est présent, mais guide déjà ses disciples pour après. Il refait des gestes que ses disciples lui ont vu faire déjà plusieurs fois. Rendre grâce et rompre. Et ces gestes, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est les gestes que Jésus a fait lorsqu'il multiplie les pains dans les évangiles, la multiplication des pains et des poissons. Il a déjà ces gestes de rendre grâce et de rompre. Et ça aussi, je trouve que c'est assez important sur l'idée qu'on se fait de l'Alliance Nouvelle. Parce que il y a une tendance dans le christianisme de se dire « Waouh, super, cette nouvelle alliance, ça va être très fun, comme on dit à présent. C'est l'amour, c'est ceci, cela, un peu le truc foldingo, on envoie... la loi valdinguée, et puis youpi, quoi. Et si vous vous rappelez les récits de multiplication des pains, qui est pour moi une anticipation du royaume dont parle Jésus, une anticipation dans le sens où à ces moments-là, finalement, on n'est pas dans le royaume, mais on le vit déjà. Et la première chose qu'il fait, je vous lis par exemple dans Luc 9, verset 14, Luc 9, verset 14, « Il y avait là, en effet, environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Et les disciples obéirent et les firent tous asseoir. » Voilà. Donc, c'est pas Woodstock à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un peu le bazar, il y a des gens partout. La première chose que Jésus fait, quand il veut faire anticiper son royaume, c'est qu'il ordonne les choses, il fait asseoir les gens pour que tout soit en ordre. Et c'est après où on a Jésus pris les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu pour ses aliments. Donc c'est là où on retrouve exactement les termes grecs que nous avons dans le texte dont nous parlons. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi, que cette nouvelle alliance n'a rien d'un truc youpi cool sympa. On retrouve peut-être ce que Monsieur Manon avait dit dans sa conférence, c'est-à-dire qu'à un moment dans une alliance, il faut trancher. Et à un moment, ça peut faire mal et c'est radical. Je vous rappelle par exemple les textes notamment dans Jean 15, quand il y a ces versets assez violents et assez terribles, hein, quand on dit que ben, les sarments sont plus utiles, on les coupe et on les fait brûler. Voilà. C'est ça l'alliance qui est proposée. C'est-à-dire que quelque part il y a une offre d'alliance, mais si on veut y répondre, ben, c'est quelque chose qui est exigeant. C'est pas quelque chose qui tombe tout cuit. Et ça, c'est de même que dans Jean 15, il y a ce parallèle où Jésus dit Dieu m'aime, alors j'applique le commandement de Dieu. Alors pour Jésus, c'est se dessaisir de sa vie sur la croix. Et de même que pour nous, Jésus, il dit dans un parallèle absolument fabuleux, Jésus nous aime, et si vous voulez demeurer dans cet amour, alors appliquez le commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Et ça aussi, voilà, les termes un petit peu de cette alliance que nous propose Jésus. Et on se rappelle aussi toutes les paraboles de banquets où ceux qui ne rentrent pas dans les critères sont exclus sans ménagement. Voilà ce que c'est l'alliance. C'est quelque chose, d'une part, qu'on connaît avec son cœur, mais d'autre part, quelque chose d'assez exigeant. Notamment, notons aussi le « ceci » qui est ici. « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors ça, ce texte, on le verra un peu plus tout à l'heure, vous le savez, est un texte où les théologies catholiques, romaines et protestantes se séparent beaucoup, justement, peut-être à cause de ce petit mot, le « ceci ». Parce que le « ceci est mon corps » ne signifie pas, à mon sens, enfin dans la théologie protestante, le corps au sens physique, mais ici, pour moi, le « ceci » désigne en fait l'intégralité de ce qui est fait, c'est-à-dire les gestes, la parole, la présence et le pain. Voilà. Et c'est ce « ceci » qui est bien imprécis. Hein. On aurait dû demander à l'évangéliste Luc de rédiger un peu mieux son texte, c'est de ne pas mettre un « ceci » ici, qui a créé cette grande polémique dans nos différentes confessions. La coupe... De la même manière, après avoir soupé en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Et c'est là aussi, dans ces versets, qu'on quitte la compréhension strictement juive de la nouvelle alliance, puisque c'est là aussi où ça se sépare. Parce que la coupe maintenant devient celle du sang du sacrifice de Jésus le Christ pour nous, mais on retrouve aussi la mention du pardon des péchés qu'il y avait déjà dans Jérémie quand il disait « Je pardonne leurs crimes, leurs fautes ». Vous voyez, c'est différent, mais c'est toujours dans la continuité. Ce qui est important et peut-être ce qui rendrait pour moi plus existentielle cette notion de nouvelle alliance, et là dans la scène, c'est de la considérer comme un passage en fait, et pas quelque chose d'institué, lourd comme ça. Passage, bien sûr, en référence au passage de la mer morte, de la sortie d'Égypte, dans la page rouge, pardon, de la mer rouge, merci. mais aussi passage que Jésus annonce dans sa passion de la mort à la résurrection. C'est un passage, mais c'est aussi une attente d'un accomplissement, une attente de retrouvailles entre tous les fils du Seigneur avec Jésus pour célébrer un festin ensemble. Eh bien nous, nous sommes un petit peu dans l'entre-deux de cette nouvelle alliance. Elle est réalisée, pleinement réalisée, dans le sang du Christ, mais elle sera que pleinement réalisée dans l'attente eschatologique de son retour. Et il nous laisse la scène, l'Eucharistie comme témoignage, anticipation et surtout désir de son royaume, déjà là, mais pas encore accompli. Ça, c'était la bonne partie de l'exposé. Parce que maintenant, il y a ce texte de 2 Corinthiens 3. Mais j'ai pas pu faire autrement, en étant honnête, de passer sous silence ce que Paul entend sur la nouvelle alliance. Voilà. Alors, si vous voulez mettre un peu de polémique dans une amitié judéo-chrétienne, vous lisez Paul, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, parce qu'elles font partie de notre corpus biblique, il faut bien en parler. Alors bien entendu, nous connaissons les absurdités dans la réception de cette pensée paulinienne, hein, ce que malheureusement elle a créé. Voilà, et puis des fois, il faut être un petit peu irrévérencieux avec les textes bibliques. C'est-à-dire que des fois, dans sa vie, hein, un peu comme dans les psaumes, on se révolte contre Dieu, ben des fois il faut aussi se révolter contre le texte, quand il nous apparaît trop curieux. Alors, je crois que déjà, il faut faire baisser la température, parce que quand on parle des lettres de Paul, il faut se remettre dans les circonstances de leur rédaction. Il y avait vraiment une lutte au sein de l'Église primitive, et c'était une lutte fratricide entre les premiers chrétiens, l'Église primitive et les juifs, puisqu'ils venaient tous de la même communauté, vous vous rendez compte. Les luttes peut-être les plus difficiles, et peut-être certains en sont témoins, c'est dans nos propres familles, hein, quand ça commence à disperser, ça peut être très violent. Et là on est là avec Paul, dans cette lutte entre ces premiers chrétiens et ces juifs. Et les disputes étaient verbales, épistolaires bien sûr, mais aussi physiques. Hein, si vous lisez tous les actes des apôtres, il y a des descriptions, par exemple dans Actes 22-23, les juifs qui avaient écouté Paul jusqu'à ces mots se mirent alors à pousser des cris qu'on débarrasse la terre d'un individu, il ne doit pas rester vivant. Vous voyez la violence des propos. Alors, il ne faut pas être naïf aussi avec le texte des Actes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les textes bibliques sont déjà des interprétations d'événements. Et par exemple, dans les Actes des Apôtres, je pense qu'il y a une scénarisation des rapports de Paul et des Juifs, et tout en a montré que les Juifs sont les méchants et que Paul est le gentil gars qui est assez soft. Quand on connaît son passé, c'est un peu étonnant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut remettre ces lettres et ces polémiques vraiment dans leur contexte. Et dans ce contexte hyper violent, hyper polémique, Paul, ce qu'il veut essayer de faire, c'est de montrer en quoi ce que Jésus a proposé est radicalement opposé et différent de ce qui était alors proposé dans le juif. Et qu'on a parlé tout à l'heure de l'alliance, il a besoin de distinguer, de trancher et de spécifier les aboutissants et les tenants dans cette lutte fratricide. Il essaye d'édifier sa communauté, notamment celle de Corinthe. Mais là où il franchit un peu une étape dans cette escalade, c'est que pour la première fois, et vous l'avez entendu, Jésus ne le fait pas, il va hiérarchiser les alliances, en disant que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. Et ça, vous avez vu, Jésus ne le fait pas. Hein, et puis, voilà, ça nous amène aussi à réfléchir à notre conception de la nouveauté. Est-ce que la nouveauté est toujours meilleure à l'ancienneté? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, en tout cas, voilà, avec Paul, on en vient à une hiérarchisation des choses, une hiérarchisation qualitative. La nouvelle alliance est bien mieux que l'ancienne. On va voir un petit peu comment son argumentation fonctionne, et après on analysera un petit peu les choses. On va lire que les six premiers versets. Allons-nous de nouveau nous recommander nous-mêmes, ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de votre part? Alors là, on voit tout de suite que Paul, il est dans cette polémique. Il est en train de répondre à une accusation qu'on fait contre lui, c'est-à-dire qu'on est en train de dire aux communautés, mais attendez, vous parlez au nom de qui, vous êtes qui? Donc voilà, il répond, il souhaite répondre à ça. Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Bien sûr, Paul connaît Jérémie, et la mention écrite dans nos cœurs fait référence ici à la nouvelle alliance voulue par Jérémie. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Il y a là aussi un petit jeu de mots en grec, dans « écrite non avec de l'encre », en fait, l'encre, « to mélane » en grec, était fabriquée avec de la suie. Et la suie, ben, c'est un petit peu la mort, hein, ce qui est noir. Donc déjà, on voit la différence entre une alliance que Paul qualifie de morte et une alliance vivante. Et on voit que tout son argumentaire va être une opposition entre une alliance d'encre et une alliance esprit du Dieu vivant, entre les tables de pierre et les tables de chair, entre les cœurs. Vous notez là aussi que cette alliance, selon Paul, est vraiment une alliance qui se prend au niveau physique. Et ça, on l'oublie peut-être un peu, hein, dans nos, on est peut-être des êtres un peu trop spirituels, mais toutes les fois, quand on nous parle d'alliance, Jésus boit du vin, donc c'est quelque chose de physique, il parle de son sang, c'est du physique, ça, c'est du corps, c'est de la chair. Telle, je reprends verset 4, telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu, et ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte, c'est de Dieu que vient notre capacité. Donc, là aussi, aucune possibilité de se glorifier, d'être dans la nouvelle alliance, puisque si on y est, pour Paul, c'est grâce à Dieu, ec tout est où, c'est dans le texte. Et Paul va fonctionner dans cette opposition entre ce qu'il appelle l'ancienne alliance, et d'ailleurs, juste une petite mention, l'appellation « ancienne alliance » apparaît pour la première fois au verset 14, mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à ce jour lorsqu'on lit l'Ancien Testament « palaga diateke » en fait. Donc l'expression « Ancien Testament » est une expression biblique qui apparaîtra plus tard, mais qui apparaît pour la première fois ici sous la plume de Paul aux Corinthiens. Alors Paul, ce qu'il veut montrer, c'est cette opposition entre l'ancienne alliance, qui est écrite sur les tables de pierre, la nouvelle sur les tables de chair, les cœurs de chair. Dans l'ancienne alliance, la lettre tue, dans la nouvelle, l'esprit vivifie. Et puis continue, au verset 7, ministère de mort, auquel répond, au verset 3 au verset 8, ministère de l'esprit. Au verset 9, pour l'ancienne alliance, ministère de condamnation. Ministère de justice pour la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, passager, au verset 9, et la nouvelle alliance est ce qui demeure, au verset 11. Au verset 14, l'Ancien Testament est lu avec un voile, Et dans le chapitre 4, verset 6, la nouvelle alliance se comprend par une illumination de la connaissance. L'ancienne alliance est qualifiée au verset 7 de gloire temporaire et la nouvelle alliance de gloire de Dieu au verset 4-6. L'ancienne alliance se lit sur le visage de Moïse au verset 3-7. Au verset 4-6, la nouvelle alliance se lit sur la face du Christ. Sur ce dernier point, Paul, en fait, fait allusion à l'Exode, chapitre 34, les versets 29 à 35, quand Moïse redescend du Sinaï, il écrit « Or quand Moïse descendit du mont Sinaï, ayant à la main les deux tables de la charte, quand il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, la peau de son visage rayonnait, ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, alors Aaron et tous les responsables de la communauté revinrent vers lui et Moïse leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur communiqua tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur le mont Sinaï. Moïse acheva de parler avec eux, et il plaça un voile sur son visage. Et quand il entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'à sa sortie, et étant sorti, il disait aux fils d'Israël les ordres reçus. Les fils d'Israël voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, alors Moïse replaçait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retournât. Parler avec le Seigneur. Vous voyez comme Paul, en fait, il reprend des choses qui sont très connues aux gens auxquels il s'adresse, mais comme il les détourne, il joue avec cette idée de lumière, d'obscurité qu'on en aide. Voilà. Et puis, pour bien nous enfoncer dans la polémique, on ne peut pas rester aussi sur le verset qui tue, hein, un petit jeu de mots. Bon. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Alors là, la polémique, elle est vraiment à son paroxysme. Donc, la lettre, gramma en grec. Alors, ce que veut signifier ici Paul, c'est que c'est pas la loi qui tue, c'est pas le texte en lui-même, mais son application strictement légaliste. Pour Paul, la loi mosaïque exige une obéissance qu'il est incapable de réaliser, ce qui le conduit à la mort. Et pour Paul, vraiment, par exemple, le pharisianisme était le paroxysme de ce travers, c'est-à-dire cette vision rigoriste et légaliste de l'application de la loi. Et notons que la nouvelle alliance, en fait, et ça Jésus l'a dit, ne modifie pas un iota de la loi, mais en propose une nouvelle compréhension. On peut dire que c'est le passage, et c'est pour ça que je parlais de la dimension existentielle de l'alliance, c'est le passage de ce qui est écrit à ce qui est vécu. On peut dire, et ça je reprends une note de Baptage de la Tobe, sans l'esprit, la lettre tue, mais sans la lettre, l'esprit est affamé. Hein, on a besoin des deux, hein, parce que sinon on n'est pas très bien. Et ça, c'est pas nouveau, c'est déjà ce que disait Jérémie dans son texte. Et c'est ce que dit par exemple Ézéchiel, au chapitre 36, 26. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et ce passage, en fait, chez Paul, et c'est là la spécificité qu'il veut dire, c'est que ce passage, c'est Jésus-Christ qui l'assure dans sa mort et sa résurrection. Il lève le voile, et ça, bien sûr, c'est une des différences entre le christianisme et le judaïsme. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Une conclusion donc où je rappelle un petit peu ce que j'ai dit. Il y a déjà bien se mettre dans la tête cette idée d'une alliance qui est spirituel et charnel, je crois que c'est assez important. Et cette nouvelle alliance spirituelle et charnelle, c'est celle que propose Jésus, mais déjà que propose Ézéchiel, Jérémie. C'est pour nous, les chrétiens, une nouvelle alliance instituée en Christ, mais finalement, c'est une nouvelle alliance qui n'est pas accomplie, qui n'est pas faite, qui reste en devenir, hein, la temporalité de l'alliance. Et pour finir, j'aimerais faire une ouverture un peu sur les rapports entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors je m'excuse de dire Ancien Testament et Nouveau Testament, mais bon, c'est un peu ma tradition, je crois qu'ici on dit un peu autrement. Ce qui est important pour moi, c'est pas une question de l'appellation, c'est une question de voir comment on négocie ces rapports. Paul, on l'a vu, est dans une opposition radicale. On dit que Paul, en fait, met en antithèse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En fait, il y aurait une face sombre, l'Ancien Testament, et une face claire, le Nouveau Testament. C'est une tendance qu'on a eue et qu'on suit toujours, hein, dans nos églises chrétiennes. Par exemple, une conséquence de cette tendance, c'est que finalement, on prêche très peu les textes de l'Ancien Testament. Et quand on les prêche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaye à la fin de mettre une petite dimension christologique. C'est de récupérer le truc, là, hop. Voilà, c'est ça, à mon sens, l'idée de l'antithèse. Une face sombre et une face claire. Il y a aussi une autre tendance dans le christianisme, j'entends, qui est de dire que finalement l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Ça, vous allez me dire, mais c'est une évidence. Bah oui, mais c'est pas que ça, en fait. Parce que ce faisant, on fait de l'Ancien Testament une espèce de jeu de piste, hein, des trucs à mots-clés où on doit trouver toujours une petite présence de Jésus. Ah oui, mais là, il annonce Jésus, tout ça. Et on ne rend pas, à mon sens, on ne rend pas la valeur de l'Ancien Testament en faisant ça, en féodalisant, par exemple, au Nouveau Testament. Et ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est d'essayer de voir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme deux entités à part entière, comme ça, et d'essayer de faire des allers-retours entre, et pas uniquement une flèche qui irait de l'Ancien et qui aboutirait au Nouveau Testament. Je pense que, comme Eliane tout à l'heure disait que les Juifs ne peuvent pas ignorer Jésus, ben, je crois que les chrétiens ne peuvent pas ignorer aussi ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et autant l'Ancien Testament peut que le ministère de Jésus est éclairé par l'Ancien Testament, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que ce qu'a fait Jésus éclaire aussi l'Ancien Testament. Ça, c'est et puis ça nous ouvre beaucoup de perspectives, hein. Et puis c'est vraiment deux choses à maintenir ensemble dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est un peu à quoi ressemble notre monde actuellement, hein. Le monde est violent, on se tue, il y a des suppliques, des lamentations, mais il y a aussi des chants de bonheur. Puis dans le Nouveau Testament, il n'y a plus tout ça. C'est un petit peu déjà évanescent, un petit peu dans le royaume. Et c'est justement dans le maillage de ces deux choses qu'on trouverait, une certaine vérité. Et il y a ce qu'on appelle une lecture qui serait une analogie de structure. C'est-à-dire de lire l'Ancien Testament dans une question de réception et de se dire que les personnages de l'Ancien Testament sont en analogie d'attente vis-à-vis de Yahvé comme les chrétiens ont une attente finalement assez identique par rapport à Dieu. Voilà. C'est un petit peu cette idée. Je le dis assez mal, alors je vous propose une lecture de Dietrich Bonhoeffer. Alors là aussi, c'est dans le livre qu'il écrit en prison, Résistance et soumission. C'est une lettre du 5 décembre 1943. 5 décembre 1943. Alors voilà ce que dit Dietrich Bonhoeffer. Je remarque d'ailleurs toujours à nouveau à quel point tout ce que je pense et ressens est inspiré de l'Ancien Testament. Je l'ai lu bien davantage ces mois passés que le Nouveau. Ce n'est que lorsqu'on connaît l'impossibilité de prononcer le nom de Dieu qu'on a le droit de prononcer celui de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en aimant la vie et la terre assez pour que tout semble fini lorsqu'elles sont perdues qu'on a le droit de croire à la résurrection des morts et à un monde nouveau. Ce n'est qu'en se soumettant à la loi de Dieu qu'on a le droit de parler de la grâce, et c'est seulement quand on admet la colère et la vengeance de Dieu envers ses ennemis comme des réalités valables que l'on peut pardonner et aimer ses ennemis. Celui qui veut immédiatement passer au Nouveau Testament n'est pas chrétien, à mon avis. La dernière parole ne doit pas précéder l'avant-dernière. Nous vivons dans les réalités avant-dernières et attendons dans la foi les dernières. Voilà, je trouve ce qui est paradigmatique de l'Alliance. Merci.
Merci beaucoup Bruno. C'est un éclairage, c'est à la fois difficile parce que ce qui est dit, écrit, a fait que pour le monde juif, bien sûr moi ma réaction elle est là, c'est cruel et ça a perduré et ça perdure encore. Ce serait bien que tout le monde lise Monsieur Bonhoeffer, c'est magnifique ce qu'il dit. Maintenant, tout de suite, avec l'espoir de ce qui se passe, au moins déjà depuis Vatican II, mais même encore, ça s'est passé dans les temps anciens. Cette possibilité, effectivement, dans l'étude, de se comprendre et de ne plus vouloir convertir l'autre et de penser que l'autre aussi a sa place. Mais tu as été très courageux, je trouve, de dire ce que tu nous as dit pour les amis juifs qui sont là, parce que c'est la réalité, c'est quand même ce qui nous a détruits. Alors que j'ai relevé plein de choses dans ce que tu as dit qui ne sont pas entendues sans doute par beaucoup de chrétiens, ne serait-ce que l'alliance dans la chair, mais ça a été fait tout de suite chez nous avec Abraham, avec la circoncision. On l'a cette alliance dans la chair, immédiatement, et elle a coûté très cher, dans tous les sens du mot, très très cher. Donc, surtout pendant, enfin vous le savez, bon, je me dis qu'après, dans l'étude, dans le travail, dans la recherche de ce que cette première alliance, enfin en tout cas l'Ancien Testament, veut nous dire, ce que la lettre veut nous dire, mais nous, elle nous fait vivre. Alors après, bien sûr, hein, il y a toute la polémique, les polémiques, mais il est vrai que c'est très très difficile, parce que ce qui est merveilleux aussi, c'est que on a la chance de s'ouvrir les uns aux autres. Mais lorsque les personnes n'ont pas envie de cela, c'est très très difficile. Il y en a beaucoup, beaucoup encore. Oui, beaucoup. Alors là, je pense qu'il y aura beaucoup de questions, ou en tout cas de sujets à soulever, peut-être par nos amis juifs, il me semble, et puis peut-être vous les amis chrétiens, que aussi bien protestants, catholique, qui a envie d'exprimer quelque chose, poser des questions. Entre nous. Je pense que vous connaissez très bien vos textes. Moi, ce texte de Paul, je ne l'avais jamais lu. Et il m'a surpris parce que je croyais Paul plus doux. J'ai cru que c'était Jean qui était le plus terrible. Parce que quand il a eu des phrases dures sur les Juifs, j'ai cru que la polémique venait vraiment de là. Mais là, je reconnais que c'est difficile là, de lire cela. Comme quoi, il faut continuer à lire partout. Nous aussi, nous devons lire. Mais c'est quand même difficile. Si moi, je lisais ça toute seule dans mon coin, ou une famille juive lit ça, et que ben, c'est très, très, très dur, et elle n'a pas envie de s'ouvrir. Et elle dit, vous voyez, c'est bien ça qui est arrivé, et voilà pourquoi l'antisémitisme et protocole de Sion, enfin tout ce qui s'est fait tout au long des âges. Moi, ce que je trouve douloureux, c'est que je pense vraiment pas que Jésus ait souhaité cela du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'aurais des réflexions à faire par rapport aussi à la soirée de Pâques, à ce Pessard particulier. Avant, tu le dises, mais tu l'as dit après. Je me suis posé la question, mais en fait, Jésus savait très bien qu'il allait mourir. Alors, c'est naïf hein, pour le monde chrétien, ce que je dis, mais bon, moi, j'ai pas d'enseignement, ça vient de mon cœur. Je me dis, mais il savait qu'il allait mourir. Donc, alors, après tout de suite, j'ai dit, pourquoi ça a fait tant d'histoire avec Judas? Parce que c'était le moyen, mais il savait qu'il allait mourir, n'est-ce pas? Pour qu'il dise cela.
Oui,
ah oui. Je sais pas.
Oui. C'est. Effectivement, dès le début des évangiles, vous avez cette mention de la mort du Christ et. Il institue la scène parce qu'il sait qu'il va être absent et qu'il faudra un signe de sa présence, un signe physique hein, de sa présence. Donc quand il institue la scène, oui, il sait qu'il va être présent. Pour rendre un petit peu Paul moins difficile, il a quand même des passages où il appelle à protéger le juif aussi. Hein, Paul, c'est pas. Oui, tout à fait. Il a des textes très radicaux, mais d'autres. D'autres, bien sûr, beaucoup plus, où il reconnaît effectivement, mais là, il veut asseoir cette dimension, hein, tout à fait. Mmh. Remarquons d'ailleurs que celui qui paye le plus cher l'Alliance Nouvelle, c'est Jésus, hein, il le paye dans sa chair, hein, mais, puisque par exemple, le rompre qui est ici à la scène se retrouve à la croix quand on lui rompt. Les tibias, on a exactement le même mot, et là aussi il y a un jeu, donc effectivement cette scène est vraiment une anticipation de sa passion. Mmh. Et là, c'est effectivement lui qui paye cette alliance en fait, Jésus. Mmh. Après sur la réception, je dirais que c'est toujours plus facile de quand on discute comme ça avec les gens, il y a deux techniques. C'est soit vous voulez pas discuter justement parce que vous êtes contre, soit justement vous essayez d'aplanir toutes les différences et pour rester en bon terme, mais là dans les deux choses on va dans une impasse parce que si on ne dit pas les choses en vérité, c'est difficile de véritablement parler.
Je dirai après. Oh, je voulais simplement dire par rapport toujours justement à la scène, quand il parle de rompre le pain, de passer le vin, nous, on a le kiddush à tous les moments de fête, c'est-à-dire cette bénédiction sur le vin et sur le pain qui se fait à chaque Shabbat et qui se fait pour les fêtes. Et je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de cette sorte-là qui est comme tu dis, en mémoire, mais je comprends aussi que pour Jésus, dans ce que tu expliques, ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, la similitude des gestes et de la tradition, alors pourquoi à la fois il y a similitude et à la fois Il y a une telle différence, peut-être quand je te... Est-ce que, comment expliquer cela? Ce sont des gestes rituels? Même le fait de Pâques, est-ce que c'était du pain azim ou est-ce que c'était vraiment du pain? Je me suis posé la question parce que si c'était ça, c'est forcément du pain azim. C'était du pain azim. Il célébrait la Pâque, donc c'était ça. Donc c'est du pain azim. Avec tout ce qu'il y a en ordre d'ailleurs. Parce que ça aussi, quand tu as parlé d'ordre, mais pour l'autre chose, lorsqu'il a multiplié les pains, l'ordre, nous le céder, ça veut dire en ordre, de faire les choses de façon rituelle dans un ordre particulier pour en mémoire de la sortie d'Égypte, effectivement. Donc s'il la faisait, mais j'ai appris, ça m'apprend beaucoup, ça je ne savais pas et c'est très très intéressant à réfléchir là-dessus.
De toute façon, on pourrait le dire, les idées neuves ne tombent pas du ciel. Hein. Ces premières communautés de l'Église primitive, ils ont repris les déroulements liturgiques qu'ils avaient, eux, dans leur communauté juive. Donc, effectivement, ils ont repris les gestes, ils ont repris certaines paroles, ils ont repris les modalités. Alors, bien sûr, au cours des siècles, on s'est séparés, puis on sait bien que dans l'Église chrétienne aussi, il y a eu des différentes orientations liturgiques, mais c'est ce que dit Bonhoeffer, je veux dire, on ne peut pas tout de suite passer au christianisme sans avoir conscience de la longue tradition dont on est issu. Il y a nouveauté, mais il y a aussi continuité. Voilà.
Moi, j'ai particulièrement aimé ton intervention. Je vais essayer de dire ce qui m'a le plus marqué. Mais tout d'abord, je trouve que la conférence a été absolument exemplaire au sens où c'est ce qu'on devrait vivre chaque fois dans l'amitié judéo-chrétienne. Je vais essayer de dire pourquoi. D'abord parce que tu as refusé la facilité. Il y a deux types de facilité. Il y a la facilité qui consiste à ne pas choisir le texte qui va créer polémique, et en choisissant Corinthiens, et en particulier le verset 6 du chapitre 3 de la deuxième lettre, c'était vraiment choisir la partie la plus polémique. La facilité, il y a deux facilités à mon sens, il y a la facilité qui consiste à faire en sorte de ne pas heurter les siens. Alors, on a quelqu'un ici, le père Barthélemy, qui n'hésite pas, non pas à heurter les siens, mais à les bousculer un peu parfois. Et ça nous fait beaucoup de bien. Donc, toi tu nous as, je parle des chrétiens, tu nous as bousculé au sens heureux du terme, et je te remercie pour ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a l'autre facilité qui consiste à ne pas bousculer les autres, en l'occurrence, ce soit toi, chrétien, pasteur protestant, à ne pas trop bousculer les juifs, parce qu'il y en a qui connaissent très bien ici, les juifs, et pas facile d'affronter. Or, t'as évité ces deux facilités, donc il y a beaucoup de courage. Le courage notamment de dire qu'il faut, alors pour un pasteur, c'est singulier quand même, qu'il ne faut pas avoir peur de se révolter contre certains textes bibliques, ou tout au moins contre certaines interprétations, pas contre le texte lui-même, mais certaines interprétations. Quelque chose aussi, moi, que j'ai découvert, ça m'avait échappé, Paul hiérarchise qualitativement, alors que Jésus n'a jamais hiérarchisé. Ça, je l'avais jamais entendu dire. Et pour un pasteur, le souligner, ça je trouve que c'est faire preuve de courage dans la mesure où pour les chrétiens, Paul, c'est un pilier du christianisme. Pour beaucoup de chrétiens, se révolter contre une lecture traditionnelle des textes, et notamment ceux du Second Testament, et tout particulièrement les textes de Paul, c'est à la limite du scandale, c'est-à-dire à la limite, on a peur, scandale au sens, faire tomber ceux qui sont un peu fragiles. Donc, merci pour ça. Donc merci de nous avoir proposé une nouvelle compréhension du texte de qui porte la polémique à son paroxysme, ce fameux verset 6, où tu nous as proposé une lecture nouvelle, lecture beaucoup plus riche, beaucoup plus enseignante, parce que en fait la lecture qui nous est proposée est souvent très étriquée et finalement il y a une polémique qui n'a pas forcément lieu d'être. En tout cas, moi je le lis de façon beaucoup plus apaisée. Et je pense que les Juifs, ils vont certainement s'exprimer tout à l'heure, il y a possibilité, en tout cas, de faire une lecture beaucoup plus apaisée et peut-être beaucoup plus proche de ce que Paul a voulu dire. Merci d'avoir rendu à chacun des deux testaments leur singularité. Voilà. Parce que c'est personnellement, je suis très agacé souvent quand, de la part des chrétiens, y compris des chrétiens protestants, le premier testament, en fait, est réduit à une annonce de Jésus-Christ. Moi, j'étais allé, je ne dirais pas où, mais dans une étude biblique, pas une étude réformée, ça portait sur le premier testament, mais alors Jésus, il était partout. Hein. Voilà, il n'y avait que Jésus, en fait. Là, c'était le rocher que Moïse frappait, c'était Jésus, etc. Et ça m'avait insupporté. D'ailleurs, je suis jamais retourné. Et puis, dernière chose, les liens entre les deux testaments qui doivent s'inscrire dans une dynamique, c'est-à-dire parler d'élan, parler d'aller-retour aussi. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, merci infiniment.
Au compliment, on répond merci.
Alors, Chabier. Alors, peut-être, merci. Je crois que tu n'es pas assez. Je suis bien, ou Marie-Lou, Bon, je veux dire merci parce que c'est la première fois que j'entends parler des deux alliances comme vous nous en avez parlé. J'ai jamais entendu tout ça et pour moi c'est une découverte parce que ces deux alliances c'est un grand mystère et voilà que ben oui, et j'aurais beaucoup de questions, ça vaudrait le coup après de pouvoir rediscuter longuement entre nous et moi, si vous pouviez expliquer les rapidement, les deux ceci. Ça m'a posé question dans Luc. Il y a un ceci qui n'est pas égal à l'autre ceci. Et tout ce que vous avez dit, c'est tellement nouveau que, voilà. Quand j'entendrai parler d'alliance ancienne et d'alliance nouvelle, eh ben, je penserai à tout ce que vous nous avez dit.
Et ceci est le souci. Ouais, en plus, juste, je ne veux pas compliquer l'histoire, mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, le texte grec n'est pas plus, nous éclaire pas plus hein, sur ce que voudraient dire les ceci. Oui, ce que je voulais dire, ce qui complique, c'est que Jésus s'exprimait en araméen et le verbe être n'existait pas en araméen. Donc il a dit ceci mon corps en fait, et pas ceci est mon corps. Donc ça, c'est une autre difficulté. Je crois que si on veut être honnête, et puis effectivement sur des textes comme ça, on peut parler, mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter de parler. Ce qui est important, c'est pas de savoir à quoi se réfère ceci, c'est de savoir comment moi je le vis. Et c'est ça, et c'est cette nouvelle alliance qui nous est proposée. Je crois qu'on a quand même perdu, c'est pas perdu, mais on parle beaucoup, on se questionne, on essaye de connaître et on essaye de vivre un peu moins. Donc peut-être qu'il faudrait vivre les choses et peut-être les lire sans essayer de trop les expliquer. Et là aussi, alors c'est vrai que moi j'ai une théologie qui est assez libérale finalement, mais il y a une relativisation de la vérité évangélique, et ça c'est important. Parce que là, effectivement, si on est honnête avec ce texte, on ne peut pas dire ce que le ceci est. Et on ne peut pas trancher entre la compréhension de l'Eucharistie catholique et la Sainte Cène protestante. C'est quelque chose qui est à vivre. Où je vis la Sainte Cène protestante, où je vis l'Eucharistie. Et jamais personne n'arrive pas à dire c'est vrai de façon dogmatique, c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai pour moi, mais ça sera vrai pour toi de façon différente. Et c'est pas grave, hein, parce que c'est comme ça le texte biblique. C'est pas un truc uniforme, justement, puisqu'on doit le vivre avec le cœur. Ce sera un peu fastidieux. Mais ça, c'est difficile à expliquer. Je veux dire, on peut sortir tous les textes bibliques. Il y aura toujours un argument qui sera utilisé contre, pour, je crois, ce qui est important, c'est de le vivre, et le vivre et pratiquer la charité vis-à-vis de son prochain, et la charité, c'est de l'accepter comment il le vit, lui. Attention, s'il veut nous l'imposer, là, c'est un peu différent. Mais, voilà. Donc finalement, le ceci, moi, comme je l'ai dit, quand il dit ceci est mon corps et le fait ceci, c'est le même ceci, c'est-à-dire que ceci englobe la parole qu'il prononce, le geste qu'il fait et le pain. Donc pour moi, c'est pas le corps du Christ qui est dans ce ceci. Voilà. Ceci est mon corps, c'est l'ensemble. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait ici comprendre comme c'est mon corps, en fait, que vous mangez. Voilà.
Excusez-moi. Pour vous, mais c'était la même question. C'est ça. Voilà.
Non,
alors, excusez-moi. Alors, il y a vous et il y a juste.
Alors, je ne savais pas trop par où commencer, mais puisqu'on est en train de parler du ceci. C'est peut-être un juif ce soir qui va mettre les catholiques et les protestants d'accord. Puisqu'il faut bien trancher, alors j'ai peut-être une lecture juive de ce texte de Luc par rapport à ceci. Vous avez évoqué effectivement l'araméen sous-jacent, puisque Jésus parlait araméen. Or, dans la soirée du Seder de Pessah, on raconte la Haggadah, on lit la Haggadah, en partie en hébreu, en partie en araméen. Or, à un moment très important, il y a une phrase en araméen qu'on doit prononcer en faisant un geste, en montrant une matza. Alachma aniya, voici le pain de misère. Donc, d'un point de vue juif, en araméen, le ceci renvoie à la parole, au geste et à la matza. Ça renvoie bien aux trois. Donc après, vous vous arrangez entre catholiques et protestants. Maintenant que c'est les islamistes, c'est votre problème. Oui. Pain-azim, oui.
Non,
c'est pas le même moment. Vous voyez, trois juifs, quatre avis différents, donc. Tout est normal. Bon. Alors, ma deuxième remarque, c'était. Bon, j'aurais dû commencer par là, mais. Bon. Je tenais absolument à vous dire tout mon respect et toute mon admiration pour la franchise et l'honnêteté intellectuelle dont vous avez fait preuve. Voilà, vraiment ça force le respect. Vous avez parlé de la différence entre le cœur et les entrailles. Alors évidemment, mes entrailles de pharisien ne peuvent pas ne pas s'émouvoir un petit peu. Mais quand je lis Luc, quand je lis Paul, moi ce qui me frappe, c'est que vous avez parlé de, j'ai beaucoup aimé cette expression, de maillage entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ça ne me gêne pas non plus d'employer ces termes-là.
C'est vrai que moi, quand je lis Van Paul, je vois que c'est un tissu de citations de Midrashim. Moi, je reconnais certains Midrashim sur la Genèse, sur tel moment, etc. Les jeux de mots qu'il peut y avoir en hébreu. Donc, voilà, je trouve qu'effectivement, une lecture chrétienne de l'Ancien Testament est parfaitement justifiable. Et effectivement, symétriquement, réciproquement, une lecture juive du Nouveau peut être également très, très enrichissante. Donc, effectivement, je serais assez pour ces allers-retours incessants entre les deux. Alors, néanmoins, j'ai une question parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, puisqu'effectivement, vous avez insisté au début sur le fait que Dieu, donc dans la Nouvelle Alliance, mettra la connaissance à portée de cœur, dans le cœur, que ça sera donné. Or, pour moi, juif, l'idée d'abolition d'efforts ou d'études ou d'apprentissage, etc., ça me paraît évidemment inconcevable. Donc, pour vous, que devient la notion d'effort, de service, d'études et d'apprentissage?
Comme j'ai dit tout à l'heure, à mon sens, c'est l'idée que la Nouvelle Alliance, c'est pas le Club Med, quoi. C'est-à-dire, comme vous dites, un truc comme ça qui nous tombe tout cuit. Je crois qu'il y a une différence de réception, en fait. Et intervient peut-être ici ce que j'appellerais la théologie de la grâce. C'est que tout ce que vous allez faire n'est pas pour avoir la connaissance, mais c'est grâce à ce qui vous est donné que vous avez l'obligation de connaître, de travailler, de faire des choses. C'est un peu un schéma qui, je pense, s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette alliance de Dieu qui est donnée en vous, mais quelque part il faut s'en montrer digne, et ça vous étudiez plus, vous ne faites plus des choses pour, mais parce que quelque part ça a libéré en vous la possibilité de le faire gratuitement. C'est un petit peu la différence, ouais. Mais ça atteint son paroxysme en protestantisme, par exemple, où vous avez, par exemple, dans votre vie quotidienne, plus rien qui vous rappelle que vous êtes protestant. C'est-à-dire, vous pouvez manger de tout, vous pouvez faire tout, il n'y a aucun interdit. Et est-ce que c'est pas trop poussé à son paroxysme, puisque le corps peut être oublié? Et déjà, dans le catholicisme romain, il y a plus de choses qui viennent nous rappeler. Voilà, des temps de carême, des choses comme ça. Mais voilà, c'est cette grâce qui est d'abord première, mais qui doit avoir pour conséquence votre travail, votre étude.
Donc il y a quand même de l'étude. Bah oui, parce que vous étudiez tout le temps, la preuve. Mais c'est vrai que c'est moins l'objectif, parce que ça, c'est vraiment pour nous le point presque crucial, même si nous nous sentons habités par le fait ou bien par le côté culturel d'être juif, par les sentiments vis-à-vis de nos parents, de nos ancêtres. Du souviens-toi, mais aussi on a quand même des textes magnifiques, des paroles de Dieu qui dit toujours, finalement, il ne m'oublie pas. Bon, tu fais des bêtises, tu pèches, mais il y a qui pour, viens, prie et je te pardonnerai. Donc on a cela aussi. Mais par contre, on a quand même cette obligation d'étude, et je la comprends parce que ça nous apporte peut-être encore une meilleure compréhension de qui est Dieu pour nous. Mais encore une fois, c'est chacun de nous. Parce que là, je suis sûre, nous sommes quatre, on se passe des mails, parce que là, il y a des érudits, je peux vous dire, hein. eh bien, on n'est pas forcément d'accord, et ça discute, et c'est le pile-poule, mais c'est Dieu qui est au centre de ça. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Et je trouve que c'est la même chose. Bon, par contre, effectivement, enlever la circoncision, je peux comprendre cela, pour le monde païen, c'était compliqué, mais alors à ce moment-là, on sort de l'alliance avec le monde juif. Bon, ça, c'était plus tard, le 1er, 2e siècle, voire carrément 3e siècle. Je vais laisser la parole.
Oui, je voulais dire justement à ce propos qu'on avait déjà abordé ça lors du séminaire qu'on avait fait il y a un mois, sur le fait qu'on donnait l'amour en premier et qu'après on a l'étude, mais effectivement l'étude elle a sa place quand même à un moment donné. Alors moi je voulais déjà dire en premier que comme Eliane, j'avais été assez choqué par le mot « la lettre tu » de la lettre de Paul qui était quand même assez dure. Et parce que enfin, moi je m'intéresse beaucoup au problème des lettres hébraïques, et au contraire je trouve que ça a quelque chose qui respire. D'ailleurs la succession des lettres hébraïques c'est une ouverture, c'est une fermeture, d'une ouverture, d'une fermeture. C'est-à-dire que le Aleph c'est quelque chose qui s'ouvre, le Bet c'est quelque chose qui s'intériorise, le Gimel c'est quelque chose qui marche, le Dalet c'est on n'en a plus rien. Enfin, toute la succession est une succession d'ouvertures et de fermetures. Donc on ne peut pas dire que la lettre hébraïque soit morte. Au contraire, je pense que il y a que le Tav, la dernière lettre, qui peut symboliser un peu la mort. Mais sinon, toutes les autres lettres ont quelque chose de très vivant. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Bon, pour ce qui concerne la lettre de Luc, ça m'a beaucoup interpellé, parce que, bon, moi j'avoue que j'ignore un petit peu certaines choses, en particulier ce qu'on définit par la passion. Moi, bon, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que le mot passion était à côté du mot désir. Et désir et passion, c'est quand même assez proche. Et finalement, donc, Jésus résiste à ce désir par le jeûne. Et ça me rappelle un petit peu le rapport qu'il y a entre le ramadan, le jeûne du ramadan, et la quatrième loi dans le Coran, qui est de donner aux pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, on se prive de manger pour pouvoir avoir de l'argent pour donner aux pauvres. Et je trouve que c'est une chose qui est très généreuse, qui est le véritable amour, parce qu'en fait, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc ça veut dire qu'il demande à l'homme de faire comme lui, c'est-à-dire de pouvoir donner son corps pour son prochain. Et finalement, ça revient un petit peu à dire « Aime ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire tu essayes de faire en sorte que ton prochain soit bien nourri, même si je dois me priver un petit peu de mon égo. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, c'est que donc on parle de nouvelle alliance, c'est ce que vous avez été, qui était un peu le sujet que vous avez défini pour ce soir. Et je trouve qu'effectivement, c'est la meilleure alliance, c'est celle qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'accepte aussi cette dénomination, où chacun est indispensable. L'un de l'autre, c'est-à-dire que le juif a besoin du chrétien et le chrétien a besoin du juif, et je crois que c'est ça la véritable alliance, le véritable amour qu'il peut y avoir entre nos deux civilisations.
Oui, c'est marrant ce que vous avez dit, j'ai pas vu le désir et la passion qui sont à côté. Par contre, moi je vous suivrai pas sur cette idée de jeûne en fait, parce que je pense que si à ce moment-là il prend pas la scène avec eux, c'est qu'il est déjà plus là en fait. On est toujours dans cette présence-absence. Il est présent physiquement, mais il est déjà plus là parce qu'il a annoncé qu'il était. Qu'il était parti en fait. Donc, je pense pas que ça puisse rentrer dans cette dynamique du jeûne privatif pour donner aux pauvres en fait. Enfin, c'est, mais c'est ouais, c'est Ça va cogiter. Merci. Ah, c'est finalement ce qu'on appelle la passion. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la passion, en fait? La passion, c'est les derniers moments du Christ sur terre, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, en fait. C'est ce qu'on nomme la passion du Christ. Ça, c'est une colle, je sais pas. C'est un mot biblique, en fait. C'est en grec, c'est souffrir, ouais, donc la souffrance. Ouais. Oui, ouais. Ouais. Mais là, je peux pas vous répondre très clairement parce qu'il faudrait étudier pourquoi c'est devenu la passion dans le sens de ce que nous on entend par une passion amoureuse. Alors ça fait parfois souffrir, mais je sais pas comment on est passé. De la définition de souffrance, ça, ouais, il faudra en regarder.
Déjà, on peut faire un rapprochement avec la compassion, souffrir avec, et la passion, en fait, c'est pas seulement la mort et la résurrection, il y a tout ce qui va précéder la mort, ce qu'on appelle le jeudi saint.
Exactement, oui. C'est. Ça part du jeudi, le début de la passion, c'est en fait la scène, en fait. Oui. Oui, alors pas dans tous les évangiles chez Jean. Ouais. Et chez Jean, il n'y a pas de scène. Voilà, il y a un lavement des pieds dans l'évangile de Jean, mais il n'y a pas de scène.
Bon, je voudrais simplement apporter une petite chose. Hein. On a parlé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça a toujours été dans la tradition chrétienne. Au IIIe siècle, il y avait un certain Martial qui voulait supprimer l'Ancien Testament en disant il ne sert à rien, et ça a toujours été refusé, ça a toujours été considéré comme hors de la foi chrétienne. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament font partie intégrante de l'Écriture. Hein, c'est ça. Donc c'est la même Écriture, c'est le même projet de Dieu dans ce livre qu'on partage en deux, mais qu'en définitive, c'est le même projet de Dieu au cœur de l'histoire. Ça me semble important. Pour ça que pour moi, depuis que je suis dans les amitiés judéo-chrétiennes, hein, je découvre de plus en plus qu'il y a une alliance. Dieu n'a pas pu refuser et n'a pas réfuté l'alliance avec Israël, c'est impossible. Il s'est engagé avec. Et l'image de toute la Bible, quand on pense à la première métaphore de l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est l'image de l'époux et de l'épouse. Hein, et que Dieu n'abandonne jamais son épouse, c'est pas possible. Hein, à tel point qu'après, on voit cette évolution dans la mentalité, que de l'épouse, il devient la mère, il peut pas s'en séparer parce qu'il la porte en lui comme dans son être. Hein, et puis ensuite, le Père, quand il découvre Dieu Père, c'est le moment de l'exil, c'est que ce Père est le signe de la responsabilité de ce peuple-là. Convertissez-vous, il prend conscience de sa responsabilité. Alors, pour moi, ça me semble important que, chrétiens et juifs, nous vivons et nous sommes au cœur d'un même appel et d'une même alliance de Dieu. Et que nous avons notre chemin à trouver dans cette alliance. Et que, vous disiez tout à l'heure, je crois qu'il l'a dit... Le fondement de l'alliance, c'est-à-dire c'est Paul qui le dit aux Galates, toute la loi se résume en un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire c'est l'amour du frère. Hein, que d'ailleurs dans le prophète Jérémie, il dit tu ne peux pas abandonner, quand il dit tu donnes à celui qui a faim à manger, etc., tu ne peux pas abandonner ta propre chair. Hein, c'est-à-dire le frère, c'est la propre chair. Je crois que ça, c'est important que nous découvrions avec Dieu. Un deuxième aspect, on a parlé de la mort du Christ, hein, savait-il sa mort, etc. Il faut bien, pour moi, hein, qu'on soit clair sur la mort du Christ. Ce qui est premier, c'est pas sa mort biologique. Ce qui est premier, ce qui est révélateur, c'est la mort dans l'amour. Car dans tout amour, il y a une mort. Il y a une mort à soi-même. Dès qu'on aime, on meurt à soi-même pour l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et toute la manifestation du Christ, c'est la manifestation de cet amour de Dieu qui est don. La vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors, quand nous célébrons l'Eucharistie, et là je vais un peu le faire, hein, c'est qu'on reconnaît Jésus, les disciples d'Emmaüs, à quoi ? À la fraction du pain. La fraction du pain, ça veut dire c'est le pain partagé. Hein. C'est ce corps livré, le corps c'est l'être même, hein, dans la Bible. Hein, c'est, hein, il n'y a pas l'âme et le corps. Hein. C'est l'être même, c'est moi qui donne ma vie pour vous. Et le sang, c'est donner sa vie jusqu'au bout. Dieu qui aima les siens, il les aima jusqu'au bout, Jésus. Hein. Alors ça me semble important être le cœur un peu de notre foi. Parce qu'il est clair que Jésus n'a écrit aucun livre. Heureusement d'ailleurs, parce que le livre enferme, hein, mais il nous a laissé deux gestes, qui est la fraction du pain et qui est le lavement des pieds. Et qui est d'ailleurs un geste eucharistique, le lavement des pieds. C'est-à-dire le don de soi pour vivre pour les autres, qui nous apprend à nous donner les uns aux autres et à vivre les uns pour les autres. Hein. Comme il a donné sa vie pour nous, vous donnez sa vie pour nos frères. Voilà comment moi je vois un peu les choses. Hein. D'ailleurs, nous, dans notre liturgie chrétienne, nous ne disons pas « nous rappelons ta mort ». Nous disons « nous proclamons ta mort hein. ». C'est-à-dire, ça veut dire que cette mort du Christ est toujours présente dans le monde, c'est-à-dire c'est le don de Dieu aux hommes, l'amour de Dieu qui se donne à nous jusqu'au bout. Voilà un peu ça.
J'ai un petit peu l'esprit d'escalier, mais c'est des choses qui me reviennent par rapport à vos différentes interventions grâce à ce que vous avez dit. Tout à l'heure, quand tu parlais de Judas, tu as eu ce petit rictus. En fait, ce qui est très clair pour moi, c'est que Jésus et sa vie étaient programmés pour finir sur la croix, et il fallait qu'il y ait des gens qui l'accompagnent vers cette mort. La tradition, enfin une certaine tradition chrétienne, a voulu faire de Judas le traître absolu, hein, voilà, avec toutes les conséquences que ça a eues. Une autre tradition qu'on a passée sous silence, parce que c'est des évangiles qu'on a rejetés du corpus, comme l'évangile de Judas, fait de Judas en fait le disciple le plus fidèle et le seul capable de pouvoir trahir et d'accomplir ainsi la volonté du Père. Ça, sur le personnage de Judas, pour moi, c'est très clair. Et l'accusation de dire c'est eux qui ont crucifié Jésus, et enfin c'est une mécompréhension totale, on devrait dire c'est eux qui ont aidé, hein, plutôt que c'est eux qui ont crucifié. Par rapport à vos remarques, monsieur, sur la lettre qui tue, ce qui est assez drôle quand même, c'est que Paul, il dit la lettre tue, mais qu'il passe son temps à écrire des lettres. Je veux dire, c'est quand même fabuleux. Hein. Au bout d'un moment, il faut aussi... ouais, c'est ça, c'est ça qui est assez extra. Ça relativise l'expression. Qu'est-ce que je veux dire encore Moi, je nuancerai par rapport à ce que vous avez dit, Père Barthélemy, sur l'idée de donner sa vie pour un frère. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez le relire, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 15, hein, en fait. Je pense que à ce moment-là, quand il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie, c'est de se dessaisir de sa vie, c'est le terme exact, pour l'autre, ça, c'était adressé à Jésus et uniquement à Jésus. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétien, j'ai pas vocation de martyr. Et ça, ça doit être important. Il y a, après, pour nous, le commandement de nous aimer les uns les autres. Et il y a de très rares cas où les chrétiens ont été amenés à se dessaisir de leur vie pour les autres. Mais c'est des cas exceptionnels qui sont pas demandés à tout le monde. Et ça, je veux bien insister parce que, au bout d'un moment, on nous dit oui, faut mourir pour l'autre. Excuse-moi, mais j'ai pas trop envie des fois. Mais c'est pour vous dire que
c'est pas nous qui le décidons, ça. Et si ça doit arriver, ça doit arriver. On peut citer comme exemple Dietrich Bonhoeffer, hein. Ça c'est l'exemple. Marie Durand aussi, qui se dessaisit d'une bonne partie de sa vie dans la tour de conscience. Et ça, je crois que c'est sur notre compréhension du martyr. À chacun, il sera donné selon sa peine, hein, finalement. Donc, voilà, c'est un petit peu pour se dessaisir de sa vie. Je pense qu'il est, dans ce texte, plutôt adressé à Jésus, ce qu'il fait, bien sûr, sur la croix. Non, le terme « dessaisir de sa vie », je ne le vois pas forcément en termes de martyr. C'est une image pour montrer qu'au quotidien, on se dessaisit de sa vie pour les autres. Je veux juste faire cette remarque, parce qu'il me semblait que ça enfermait un petit peu le terme. Le thème de martyr.
On ne comprend pas la réponse.
Je voudrais simplement ajouter quelque chose dans le prolongement de ce qu'a dit Eliane tout à l'heure sur l'obligation de l'étude dans le judaïsme. Et je voudrais donner simplement un exemple que nous avons appris tout récemment. Cette étude, notamment quand on parle d'étude, c'est pas seulement le Talmud, vous savez qu'il y a la loi écrite et la loi orale. Et quand on a eu peur de perdre toute la loi orale, on s'est mis au travail et on a mis toute la loi orale par écrit. Les Mishnayot, le Talmud et d'autres et d'autres. Les textes sont innombrables. Quand j'ai des doutes, je me réfère à toutes ces textes, à tous les textes, en ajoutant la Kabbale, les textes sur la Kabbale, c'est quelque chose d'immense. Il y a un peuple qui l'a compris, le gouvernement coréen. On a appris récemment que quelqu'un dans le gouvernement coréen s'est livré à l'étude du Talmud, à lire le Talmud, simplement lire. Il s'est rendu compte de l'importance qu'il a trouvée dans ce Talmud, qu'il l'a recommandé à ses amis, à sa femme. Et quand il veut dormir, il reprend le Talmud avant de dormir. Et c'est devenu quelque chose qui est enseigné aux enfants dans les classes du primaire.
Corée du Sud, hein. Dommage, hein. Il faudrait s'associer en Corée du Nord, hein.
Je voudrais dire trois choses. Moi, je suis toujours un peu étonné, et je voudrais m'insurger contre cette réflexion qui revient souvent de la part de mes amis juifs. C'est rare que je critique, hein, mais comme s'ils découvraient que, il y a d'autres qui étudient. Nous aussi on étudie. Et on passe, et je suis pas le seul, hein, moi j'étudie tous les jours au moins une demi-heure, voire une heure, mais dans cette salle-là, j'en connais plusieurs, des protestants et des catholiques qui étudient. On n'étudie pas par obligation, comme a dit Bruno, tout à l'heure, on n'étudie pas pour, mais on étudie parce que on est libre d'étudier, on n'a pas de souci à rechercher le salut, il nous est donné, on peut donc se consacrer entièrement à l'étude, et on a le désir de le faire, et la passion de le faire, pas au sens de... des fois je suis un peu agacé par ça, « Oh, il y en a qui étudient !» on étudie, oui, mais je ne suis pas le seul à étudier. C'est vrai que moi j'étudie tous les jours, très important. Je voudrais revenir deux choses aussi. La Nouvelle Alliance, le terme, c'est pas seulement... Ce concept, il n'est pas seulement entre le premier et le second testament. Moi, j'aime pas trop ancien et nouveau. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là. La notion d'anciens amis, ça me pose problème. Donc, ancien testament, ça me pose problème. Bon, ça peu importe. Mais ce concept, on le trouve, c'était vu tout au départ, dans le premier des trois textes que nous a proposé Bruno. Alors, peut-être, hein, c'est verset 31-31, je crois, ou 31-34 de Jérémie. Donc, c'est Jérémie, déjà, qui parle de nouvelle alliance. Et non pas seulement, ça n'apparaît pas seulement dans la conception chrétienne. Et puis, conforter, je ne sais pas conforter, parce que le père Barthélemy, il n'a pas besoin d'être conforté. Et mais je voudrais quand même faire juste une petite insiste pour rendre grâce à Dieu qui a permis au personnel médical, chirurgical, de travailler sur les pacemakers, parce que Père Barthélemy nous a montré quelle était l'importance du cœur, siège des émotions et de la volonté, et combien on est heureux de l'avoir avec nous, combien nous restitue. Je voudrais lire simplement, il y en a pour un instant, ce que la tradition calviniste enseigne au sujet de la Nouvelle Alliance, et c'était rappelé par le pasteur Alain Massini, qui était lauréat du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France en 2011, qui dit « La tradition calviniste enseigne que la Nouvelle Alliance n'élimine pas l'ancienne, mais que toutes deux constituent, et on retrouve ce qu'a dit le père Marcel Steller, constitue une seule alliance accordée de deux manières différentes, et ça se trouve dans le texte de Calvin, l'institution, au chapitre 2. Voilà. Excusez-moi d'avoir parlé avec passion.
C'est très bref et c'est plutôt sur les circonstances actuelles. Tu as dit tout à l'heure que c'est deux entités à part entière. C'est absolument évident, on vient d'en reparler. Il me semble, et je peux peut-être mal informer, que beaucoup de livres qu'on lit actuellement, d'exégètes, de critiques, peut-être de théologiens, accordent une place totale au fait que Jésus était juif. Enfin, moi, ça me semble extrêmement fort et constant dans ce que je dis actuellement. Je voulais savoir si, dans le domaine théologique, c'est-à-dire dans le domaine de la réflexion plus approfondie, en dehors d'une personne comme toi, il y a une vision plus de ce type-là qui augmente ou qui n'augmente pas.
J'ai pas l'impression. Effectivement, je pense que maintenant pour tous les théologiens, alors là je parle des théologiens raisonnables, c'est-à-dire des traditions réformées, luthériennes et catholiques romaines. Alors effectivement, maintenant ça coule de source que Jésus était juif. Par contre, je pense qu'on est dans une redécouverte de l'Ancien Testament. On a vu un glissement. Maintenant, par exemple, dans les facultés de théologie, on appelle l'Ancien Testament la Bible hébraïque. Et là, dans le changement de l'appellation, on voit bien... Alors, c'est un peu ambivalent aussi comme expression, parce que pour moi, une Bible, il n'y en a qu'une. C'est celle où il y a les deux testaments, en fait. Donc, appeler Bible hébraïque, c'est peut-être justement aller trop dans une direction. Mais en théologie, c'est comme dans la mode, hein. Il y a des fois, tout le monde porte des mini-jupes, et puis l'année d'après, tout le monde aura des jupes longues, enfin, en ce qui concerne les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu des mouvements de balancier, donc on est peut-être trop allé sur le Nouveau Testament. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament. Personnellement, je trouve qu'une des grosses apories de la théologie chrétienne actuelle, c'est que vous avez une déconnexion totale de l'exégèse, qui est partie dans des analyses historico-critiques. Alors par exemple, sur un texte comme Jérémie, comme ça, on vous dit toutes les strates, ce qui a été rajouté, ce qui n'a pas été rajouté, et alors c'est très satisfaisant intellectuellement, mais ça ne reste que des hypothèses, et les théologiens de moins en moins assument le passage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment de notre exégèse, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Donc c'est un petit peu le danger de cette nouvelle exégèse qui se spécialise trop, notamment dans l'Ancien Testament, un des plus grands exemples, c'est Thomas Frommer, qui est actuellement, enfin, dans le monde protestant, le plus grand spécialiste de l'Ancien Testament, qui a une vision d'ailleurs assez décapante. Mais alors lui, c'est typiquement ça. Hein, autant ses premiers écrits, il y avait encore un reste de théologie, maintenant on est quand même arrivé dans quelque chose qui est stimulant intellectuellement, mais très aride au niveau théologique. Par rapport à la question de l'étude, et ça aussi, je pense que c'est un changement de fait d'être entré dans cette nouvelle alliance qu'on dirait de cœur. Et déjà dans la compréhension de Jésus, il faut se méfier avec cette idée d'étude. On est très privilégié dans notre monde quand on peut étudier. Ça veut dire qu'on a de l'argent, qu'on a les facultés intellectuelles pour le faire et qu'on a le temps pour le faire. Bien, la majorité des gens n'y arrivent plus, vu comment c'est. Et du temps de Jésus, c'était déjà ça en plus. Et vous avez par exemple le sermon sur la montagne, les béatitudes, qui dit bienheureux les simples en esprit. Je pense qu'on peut arriver à Dieu et qu'on peut travailler notre relation avec Dieu par la connaissance, mais je pense que la connaissance peut nous enfermer aussi. Et que il n'y a pas de hiérarchie, en fait, entre une œuvre d'art, l'amour d'une femme pour un homme, d'une femme pour ses enfants. C'est pas de la démagogie que je suis en train de faire. C'est vraiment, pour moi, c'est important. L'étude, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a la vie, en fait. Et je pense que dans le christianisme, là aussi, il y a un passage. Il y a moins d'importance pour ceux qui étudient. Les gens qui étudient sont reconnus. Hein, par exemple, quand Calvin institue ses ministères dans l'église de Genève, vous avez un ministère spécifique pour les docteurs, donc pour les érudits. Mais il n'y a pas que ce biais et que ce moyen pour ça. Ouais, c'est ce que je voulais rajouter.
Je voudrais me permettre de dire que malgré tout, il n'y a pas dans le monde juif que l'étude, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'avaient pas le temps, ne serait-ce que dans la mienne. Moi, je n'ai pas vu, j'ai vu mon père lire, j'ai vu des personnes de ma famille lire, faire les fêtes, avoir une mémoire effectivement de ce qu'ils avaient pu faire malgré tout dans leur enfance, mais ils ne passaient pas leur temps à étudier, et il y avait malgré tout la foi, pour certains en tout cas, en Dieu. Donc là encore, nous ici, on est dans un milieu un petit peu particulier, en tout cas ici dans ce groupe, mais loin de là, tout le monde juif, je veux le dire quand même, je pense que mes amis seront d'accord, qui étudie. Mais c'est vrai que l'étude est une base pour aller vers la connaissance de Dieu et connaître Dieu dans la prière que nous disons à Shabbat, dans le schéma et dans tout ce qui en découle. Cette loi, elle n'est pas trop loin, ça veut dire qu'elle n'est pas incompréhensible. Je l'ai mise dans ton cœur. Là, il le dit, je l'ai mise dans ton cœur. Et c'est avant, choisis la vie, etc. Voilà. Donc, de toute façon, elle est dans notre cœur, mais pour que peut-être on comprenne ce qu'il y a dans notre cœur, on a besoin de lire la parole de Dieu, comme vous, le monde chrétien, a besoin de lire les évangiles pour comprendre la parole de Jésus. Parce que même si ça nous est donné, je crois quand même. Vous avez l'Esprit Saint, nous on a la Shekhina. Moi je crois vraiment aussi qu'il y a quelque chose chez nous aussi qui fait que on reçoit aussi dans une intuition, dans quelque chose de profond. Et justement aussi quand on étudie, mais c'est ce que passer après, peut-être ce monsieur commence à passer de l'autre côté aussi. Il a été imprégné par... Je m'excuse... J'ai deux demandes ici, Patrick, mais tu feras.
Une réaction un petit peu à ce que vous venez de dire, là. On peut aborder la parole de Dieu, bon alors c'est vrai, par l'étude, ça en fait partie, mais aussi comme une lettre d'amour. Et ça change tout. Je dirais que, je crois que c'est Thomas Roberts, un pasteur du renouveau charismatique en tout cas, qui disait, au fond, quand on lit la parole de Dieu, on est sur un chemin. Oh, il n'est pas long, il fait 30 cm. Mais par contre, c'est un chemin difficile, c'est d'aller de là à là. Et je crois que si on aborde effectivement l'écriture sous cet aspect d'une lettre d'amour, ça explique beaucoup de choses.
Moi, je voudrais juste ajouter des petites choses sur des thèmes qui ont déjà été largement abordés. Et je voudrais revenir, par exemple, sur le mot de passion du Christ. Parce que, moi, d'après ce que j'ai étudié, c'est l'ensemble de tout ce qu'il a souffert les derniers jours de sa vie. Il y a, bien sûr, les souffrances physiques que tout le monde connaît, mais surtout ces souffrances morales épouvantables qu'on a du mal à imaginer, d'être trahi par ses frères, livré à l'occupant, abandonné de tous, même de ses meilleurs amis, de ceux qu'on a formés pour continuer après soi, etc. Passion, ça veut vraiment dire souffrance. Pour l'Alliance, moi je voudrais revenir aussi sur le fait que moi depuis toujours j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait comprendre qu'il n'y avait qu'une Alliance. Et je remercie nos frères juifs de nous accepter comme des petits greffons sur leur alliance, parce qu'évidemment Dieu ne se renie pas. Alors là j'ai un numéro de sens, parce que j'aime bien lire sens, qui justement dit comme titre « Le christianisme greffé sur le judaïsme ». Et je trouve que c'est ça, pour moi, ce qui me parle le mieux, c'est cette image du greffon, et c'est la même sève, c'est la même sève. Pour ce qui est de l'étude, c'est vrai que je pense que les chrétiens peuvent s'inspirer largement de ce que font nos frères juifs pour étudier davantage. Alors, il me semble qu'il y a tout un passage historique, je ne saurais pas le raconter, mais je sais que ma grand-mère, par exemple, n'avait pas le droit, moralement, de lire la Bible, ce qui est vraiment fâcheux. Alors que nous avons eu la chance d'être éduqués avec ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, mais bon, pour moi c'est l'Alliance, d'un bout à l'autre. Et je pense que on redécouvre seulement maintenant qu'on ne peut pas se passer de ses racines. Un greffon sans tige, sans racine, ben, il n'y a plus rien du tout. J'ai la chance aussi maintenant d'essayer avec d'autres ici d'apprendre l'hébreu. Et bon, c'est une découverte incessante. Bien sûr qu'on étudie, pas assez, mais il faudrait vraiment étudier plus. Alors c'est vrai qu'il y a un courant aussi aujourd'hui, en tout cas chez les chrétiens, de petites publications, enfin des petites publications avec les textes quotidiens, de prières, des commentaires. Et puis on a quand même accès à toute la littérature juive, protestante, catholique, comme on veut, même ici dans cette bonne maison. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent prendre les livres, mais je vous assure qu'il y a vraiment tout ce qu'on peut lire. Il y a de quoi lire pendant trois vies. Dernière chose pour le texte de Paul. Alors moi, je suis une chrétienne très révoltée par saint Paul. J'essaie toujours de le lire, de le comprendre et de me le faire expliquer. Mais quand même, moi, ça me reste toujours en travers de la gorge. Enfin, certains passages comme ceux d'aujourd'hui, je vous admire et je vous remercie d'avoir pris ces textes. Mais je pense quand même que Jésus a bien fait de ne rien écrire, en tout cas il n'aurait jamais écrit ça. C'est vrai que c'est choquant. Alors on peut peut-être comprendre ça parce que Paul a eu une expérience mystique extraordinaire qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas. Et je pense que c'est dans l'enthousiasme de la conversion qui va trop loin, ça outrepasse peut-être sa pensée, enfin bon, je sais pas. Moi ça me gêne énormément. Et la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Tout le monde, à mon avis, reçoit l'esprit. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Je voulais rappeler justement, on parlait de l'homme et de la femme, que chez nous, dans la femme, la femme juive est dispensée d'étudier, d'une part parce qu'elle est, elle a besoin de s'occuper de sa famille, mais c'est aussi parce qu'on considère qu'elle a l'intelligence innée chez elle. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des lettres, le mot ben en hébreu veut dire fils, et il est composé de deux lettres que je peux écrire pour mieux rendre compte. Le bet a un peu la forme d'une maison, c'est-à-dire qu'il y a un plafond, un mur et un plancher. Et il est bien large, il a une bonne base. Alors que le nun, qui est la lettre N, la deuxième lettre du mot ben, a la forme d'un N, qui est, c'est presque la même forme que le bet, mais il n'est pas fini. C'est-à-dire c'est une maison en construction. Et d'ailleurs, le mot bonnet en hébreu veut dire construire. Donc l'homme est un homme, est une maison en construction, donc il a besoin d'étudier pour pouvoir se terminer. Alors que la femme, c'est du bat, la fille c'est du bat, et elle est complète, c'est-à-dire elle est terminée, c'est-à-dire pour ça que le tav c'est la lettre de la fin, c'est-à-dire qu'elle est complètement terminée. Et d'ailleurs il y a un autre terme pour désigner la fiancée qui dit kala, qui veut dire également terminé, Valkroulou, par exemple, pour dire que le ciel et la terre étaient terminés au sixième jour. Donc, on considère que la femme, c'est un peu la perfection de l'homme.
Merci, Patrick. Ça donne une autre dimension, n'est-ce pas, au féminin. Je pense qu'on va donner une dernière question pour Irmala.
Vous voyez, c'est déjà typique. J'ai éteint. Je voulais vous cacher. Moi, je n'étudie pas. J'ai jamais étudié. Dans ma famille, tout le monde, frères et sœurs, étudient, savent beaucoup de choses. Moi, j'écoute, je suis curieuse et je reçois beaucoup de choses. Mon père m'avait dit une fois quand j'étais enfant, n'oublie jamais que nous, les êtres humains, nous sommes tous devant Dieu. Et en même temps, chacun est seul devant Dieu. Et l'autre, là, tout à l'heure, un des intervenants a dit le mot « indispensable ». Et je trouve que c'est formidable, c'est pourquoi j'aime venir à ces soirées. Nous sommes indispensables les uns pour les autres. Et je voudrais encore dire une autre chose qui m'a bouleversée, qui n'a pas tellement à faire, mais vous avez lu la lettre de Dietrich Bonhoeffer. Dieu sait que je le connais, mais ça m'a bouleversée aujourd'hui. Et je demande pardon pour ce que je dis, et surtout je fais un immense point d'interrogation derrière. Dietrich Bonhoeffer a écrit des lettres, des choses tellement extraordinaires. S'il avait eu une vie toute tranquille, est-ce qu'il aurait aussi pu écrire des choses comme ça?
Oui, effectivement, c'est... C'est un peu ce que je disais, que tout le monde n'est pas prédisposé à donner sa vie pour l'autre, effectivement. Mais pour moi, c'est pas une question, parce que si je commence à poser cette question, ça veut dire est-ce que moi je serais capable de le faire. Je pense qu'on a des choses à vivre. Et puis, ce qui est important, c'est de les vivre, finalement. Et que moi, je suis intimement convaincu que ma vie, votre vie, la vie de Dietrich Bonhoeffer, a la même valeur aux yeux de Dieu. Et même en disant même valeur, je trahis quelque chose parce que je suis en train de donner là aussi une hiérarchisation. A une valeur, tout simplement. A la valeur d'un enfant de Dieu dans ses yeux. Et ça, je crois que c'est important de... La question avec Bonhoeffer, c'est comment
Moi, je reçois ces paroles et comment elles peuvent être un bénéfice pour ma vie. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage. Les autres questions, pour moi, elles sont pas. Voilà, ça a été comme ça. Il y a eu cet homme qui a vécu ça et puis voilà. C'est qu'est-ce que ça m'apporte pour moi, pour ma vie. Il n'y a pas de. Alors, on les appelle les grands hommes, on les appelle, mais non. Il y a ce que j'en prends et ce que j'en fais. Et c'est la meilleure façon de me rendre hommage.
Simplement, est-ce que tu peux en quelques mots dire qui était, parce que plusieurs personnes ici ne savent pas qui était Dietrich Bonhoeffer, l'opposition au régime hitlérien, mais aussi l'opposition aux églises qui ont capitalisé avec le régime hitlérien, et ce que Hitler a commandé 3 semaines exactement avant de se suicider.
Donc alors Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur professeur de l'église luthérienne allemande qui fait partie de cette frange de la population allemande qui n'a jamais accepté le national-socialisme et Hitler en fait. Il appartenait à cette aristocratie luthérienne où il y avait beaucoup de gens dans l'armée et qui ont jamais pu blairer les SS, en fait. Alors ça, c'est la base. Et contrairement à certains de ses maîtres, comme Harnack, par exemple, qui alors lui a été antisémite dans ses écrits, alors que c'est quelqu'un qui est toujours reconnu comme un grand théologien, entre parenthèses. Et quand Hitler arrive au pouvoir en 36, lui, c'est radical. Pardon ? 33, pardon. C'est Léon Blum en 36. C'est pas la même chose. En 33, il est radicalement contre, mais d'emblée. Et pour la raison que Hitler a ses idées antisémites. C'est tout de suite là. Qui le fait vraiment aller contre Hitler, plus les considérations politiques et de sa famille. C'est quelqu'un qui, parce que c'était déjà devenu un grand prof, qui a la possibilité et qui part aux États-Unis. Et puis quand il arrive aux États-Unis, il dit non, c'est une trahison en fait. Et il reprend le bateau, il retourne en Allemagne en sachant très bien ce qui allait lui arriver. Parallèlement à ça, et ça c'est une énigme chez Bonhoeffer parce que c'est quelqu'un qui est pacifiste dans son éthique, son grand livre peut-être où il met le plus de sa théologie, il est non-violent. Et parallèlement à ses activités théologiques, il participe à un réseau pour assassiner Hitler. Et d'ailleurs, ça manque, mais vraiment, il y a quelqu'un qui a un explosif dans le talon, et en fait, l'explosif saute quand il ne fallait pas. Bon, bref. Donc, c'est un des paradoxes de Bonhoeffer, le pacifiste, qui veut tuer quelqu'un, même si c'est Hitler. Voilà, ça c'est beau comme... pour montrer la profondeur du théologien, et il est emprisonné en, je vais vous dire, en 43, ouais. Parce que justement après que l'attentat est raté, il est emprisonné à Berlin. Et alors juste un petit peu avant pour expliquer aussi ces livres les plus marquants, donc il y a l'éthique, ça c'est un livre très théologique, assez aride à lire. Il y a ce qu'on appelle le prix de la grâce, qui est un livre qui en fait en allemand c'est Nachfolge, c'est-à-dire la suivance du Christ, comment je suis le Christ. Et il y a peut-être le livre, si vous avez envie de lire un livre de Bonhoeffer, il s'appelle De la vie communautaire. Il est petit, si vous voulez connaître sa théologie, parce que Dietrich Bonhoeffer, comme un peu le pasteur Niemöller, mais lui il est tout de suite mis en prison, Dietrich Bonhoeffer va s'opposer aux chrétiens allemands alors qu'ils suivent d'un seul homme
Hitler qui vraiment met sous sa coupe l'Église. Et d'ailleurs, dans un célèbre sermon de Bonhoeffer, il prêche contre l'Église d'Aaron. Et c'est ce sermon, on lui empêche d'enseigner, on lui empêche de prêcher dans l'Église. Il va se réfugier, il va créer le séminaire de Finkenwald, je crois que c'est en Pologne, à Stettin, actuellement, il me semble. Et il va créer un séminaire parallèle, ce qui était déjà ultra courageux, pour former des pasteurs d'une église. Et là, finalement, on voit la persistance de l'église allemande dans cette petite église qui est contre les chrétiens allemands. Et il va écrire ce livre sur cette expérience de ce séminaire qui s'appelle « De la vie communautaire ». Et on peut y voir une espèce de mise en pratique de la devise monacale, c'est-à-dire travail et prie, en fait. Et c'est ce qu'il faisait. Travailler sans relâche les écritures et prier. Et cette expérience communautaire qui est inscrite dans De la vie communautaire. Et ces écrits, si vous les lisez, c'est une théologie qui reste très très orthodoxe et très luthérienne, en fait, mais dans le bon côté du terme. Après, quand il est en prison, parce que c'était un homme qui avait aussi des grosses qualités humaines, il réussit à se concilier la bienveillance des gardiens qu'il a, et à faire passer notamment des lettres et des colis continuellement. Et c'est ces lettres que vous trouvez dans ce livre qui s'appelle « Résistance et soumission ». Et c'est dedans vous y trouvez des poèmes, des sermons, des notes sur ses lectures, des petits détails techniques, c'est assez émouvant. Il demande d'avoir un certain pull à sa maman, enfin, c'est quand même un livre, et c'est ça qui est beau, c'est qu'au niveau de la, au milieu de cette vie quotidienne, il y a tout d'un coup irruption de passages magnifiques sur la théologie, et c'est ça qui est magnifique dans ce livre, c'est justement que c'est pas un livre de théologie avec une réflexion qui va de A à Z et qui a un enseignement logique. C'est vraiment un livre sur la vie. Dietrich Bonhoeffer sera exécuté avant la libération de son camp. Ouais. Par
Oui. Très bien compris. Le danger que représentait
Bonhoeffer. Voilà, ouais. C'est marrant parce qu'il a, Hitler, il avait un petit peu de cette crainte justement de ces grandes familles aristocratiques, et notamment des pasteurs quelque part. Donc on peut se demander pourquoi il ne l'a pas fait dès 43. Mais effectivement, dans la débandade, il est pendu à Flossenbourg le 9 avril. Voilà. Mais il nous laisse quand même un témoignage assez impressionnant. Et voilà, et ce que je voulais dire tout à l'heure en vous parlant de théologie orthodoxe, il devient à la fin et dans ses lettres, il prône une religion où Dieu ne serait plus présent dans le monde, une religion arreligieuse. Parce que pour lui, ce qui a perverti les chrétiens allemands, c'est justement la religion, en fait, qui les a amenés vers ce péché majeur qui a été de suivre Hitler dans ce domaine. Et pour lui, et finalement, quand on voit comment le monde évolue, et bon, après la Shoah, hein, vous avez toutes ces théologies de l'absence de Dieu, mais lui, c'était autre chose. C'était un monde arreligieux et sans Dieu, mais avec Dieu. Donc et peut-être c'est ce que il a été assez visionnaire là-dessus. Hein. Donc,
Je pense que bien avant la Shoah, il y avait dans la Kabbale, ou bien le retrait de Dieu avec le Tzimtzum, avec... Oui, c'est venu effectivement comme quelque chose qui était possible. Dieu s'est retiré, il a laissé la place aux hommes, et il leur a donné effectivement tout ce qu'il faut, notamment la Torah. Et...
Qui n'est plus au ciel.
Merci Norbert, oui, tout à fait. Et c'est peut-être pour ça l'étude aussi de cela que le juif fait pour ressentir la présence de Dieu. Et malgré tout, vivre avec ce sentiment qu'on n'est pas abandonné, parce que c'est pas facile du tout de penser que Dieu peut être là, mais n'est pas vraiment là. Ça, ce sera encore toute une soirée possible de discussion. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Vraiment, merci de tout cœur. Merci de cet enseignement, de tout ce que tu as éclairé pour tous, je pense. Et merci à vous aussi de toutes ces belles questions et interventions. Alors, comme toujours, j'ai des petites annonces à faire. Notre ami Jean-Claude n'est pas là, il va regretter. Il aime bien mes petites annonces. Il y a... vous en avez d'ailleurs...